Actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Comme tous les vendredis, nous terminons la semaine avec l'actualité de votre choix, avec tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous qui nous écoutez à l'étranger, c'est l'occasion de nous parler des sujets qui font la une dans votre pays. C'est l'occasion également de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, sur notre antenne ou dans cette émission. En tout cas, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider du contenu de l'émission. Vous nous appelez et vous lancez le débat en direct sur notre antenne, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, les réseaux sociaux évidemment, et notamment la page Facebook de l'émission. N'oubliez pas, je vous le répète régulièrement, mais c'est vrai, n'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission, c'est de vous entendre, de vous donner la parole. Et on va commencer cette libre antenne avec la primaire de la droite et du centre. Hier soir, vous l'avez certainement suivi, c'était le dernier face-à-face avant le second tour de dimanche. François Fillon, Alain Juppé, les deux candidats ont débattu pendant près de 2 heures. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes à Cachan et vous avez regardé ce débat, un débat plutôt cordial après les attaques par meeting et médias interposés de ces derniers jours. Il y a eu certes de vifs échanges sur les questions sociales et internationales hier soir, mais c'était plutôt détendu, on va dire.
Oui, c'était détendu. Je crois que ça, c'est des gens qui se connaissent, j'allais dire qui se respectent. Et puis, leur carrure au niveau national, bon, c'est quand même des gens qui sont assez soft dans la manière de vivre. C'est pas des belligérants, c'est pas Sarkozy.
Mmh.
Bon. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans tout ça, c'est l'appel la semaine dernière de Sarkozy à ses électeurs pour voter Fillon. Je trouve que vraiment, même hier, même après le débat, je me suis dit, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire-là, parce que ça m'a fait remonter un peu plus loin dans le temps, lorsque Chirac avait été élu président de la République et Alain Juppé était devenu son premier ministre. Je me dis, Juppé ne passera pas, malgré tout ce qu'il a fait. Hein, il a un programme assez cohérent, un programme assez social. Il passera pas parce que là, on est en phase de gens qui veulent lui faire payer ce qu'il a fait la dernière fois.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'au moment où Chirac avait été élu président de la République, on se rappelle à cette époque-là que Sarkozy était du côté de Balladur.
Mmh.
Les échanges avaient été très très violents. Je me rappelle encore, ils font toujours partie des Républicains, hein, de même parti. Et Chirac avait dit que Sarkozy était rayé de sa liste. Et effectivement, dans le premier gouvernement Chirac de cette époque-là, avec Alain Juppé, Sarkozy n'en faisait pas partie. Il a eu une traversée de désert pendant un bon bout de temps.
Mmh.
Il a fallu attendre le deuxième gouvernement Chirac pour que Sarkozy rentre dans ce gouvernement-là. Donc, aujourd'hui, je crois que ces rancœurs ne sont pas aujourd'hui épuisées. Et quand je vois des tapes sur l'épaule, je me dis, il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Parce que de plus, du point de vue social, je ne peux pas comprendre que 500 000 fonctionnaires soient mis à la porte et qu'on m'explique qu'en augmentant le temps de travail, ça va calmer les ardeurs.
Ouais, ça c'est ce que propose François Fillon. Alain Juppé lui dit que c'est irréalisable. Il qualifie d'ailleurs ce programme économique de brutal, hein, supprimer 500 000 postes de fonctionnaires au cours du prochain quinquennat. Juppé lui veut en supprimer un peu moins, certes, il veut en supprimer 200 000. Karim, tiens, on me dit qu'on a Karim au téléphone et qui est plutôt, on va dire, si vous me permettez l'expression, Karim pro Juppé. Bonjour Karim.
Oui. Bonjour Juan, bonjour tout le monde, je vous appelle l'Île-de-France.
Très bien.
Sambo. Alors moi, j'ai suivi le débat et je crois qu'on a commis une petite bêtise parce que tout le monde sait que nous nous sommes tous regroupés pour aller faire de l'anti-Sarkozy au premier tour. C'était important pour nous que Nicolas Sarkozy ne se présente pas.
Alors quand vous dites nous, excusez-moi Karim que je comprenne, nous,
la gauche.
Nous qui la gauche. La gauche.
On sait très bien que le nombre de personnes qui sont allées voter à cette élection ne sont pas spécialement représentatifs des militants uniquement de l'UMP et du centre.
Alors selon trois instituts de sondage, mais vous allez me dire, oula, il faut se méfier des sondages, mais selon instituts de sondage, l'électorat de gauche a représenté entre 12 et 15% des électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier au premier tour, ce qui représente au maximum 600 000 électeurs tout de même, c'est important.
Oui, c'est très important et je pense que la consigne, on le sait très bien, c'était de mettre Nicolas Sarkozy de côté. Donc là, je pense que nous avons fait le boulot, mais le problème qui se pose, c'est que je me demande si nous n'avons pas commis une très grosse gaffe, parce que François Hollande risque de se retrouver soit avec Alain Juppé, soit avec François Fillon, qui sont tous les deux des candidats très dangereux. Mais moi, j'ai trouvé Alain Juppé très convaincant hier. J'ai trouvé qu'il peut reprendre les choses en main. Et je crois que la dynamique va se réaliser dimanche avec une courte victoire d'Alain Juppé sur François Fillon.
Donc ça signifie, Karim, si je vous comprends bien, en tant qu'électeur de gauche, c'est bien ça, vous irez de nouveau voter dimanche.
J'irai de nouveau voter dimanche.
Pour barrer la route, à François Fillon. C'est ça, d'accord.
Tout à fait, parce qu'il représente un candidat beaucoup plus, je crois, dangereux pour nous qu'Alain Juppé.
Ouais, pour vous, la gauche, encore dites-le, parce que pour les auditeurs qui prennent en cours, on ne sait pas.
Pour nous, la gauche, François Fillon représente un danger, un très grand danger pour François Hollande. Et je crois que François Hollande se retrouvera plus à l'aise avec un Alain Juppé qu'il pourra battre très difficilement.
Ouais, vous pensez que François Hollande sera candidat?
François Hollande sera bien sûr candidat avec les éléments que nous avons eus hier et avant-hier.
Par rapport à quoi? À la courbe du chômage? Par rapport à la courbe du chômage?
Par rapport à la légère baisse de la courbe du chômage.
Légère. Vous-même, vous le reconnaissez, hein.
Elle est légère, non? Légère. Elle est vraiment légère. Alors, il n'y a pas à se glorifier. Elle est vraiment légère.
Le temps passe très vite.
C'est une des conditions.
Karim, merci beaucoup. Ne raccrochez pas. Je ne sais pas si on aura le temps de vous reprendre à l'antenne. Alassane également, toujours sur la primaire de la droite et du centre. Bonjour Alassane, en région parisienne.
Oui, bonjour Juan. Moi, j'aimerais d'abord saluer la performance des candidats. Hein, parce que là, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, là, au moins en France, on a vu un débat de haute tenue avec deux candidats donc, qui se respectent et qui peuvent représenter la fonction très dignement. Après, donc, pour ce qui est du choix, moi, personnellement, je suis de gauche, donc social-démocrate, je vais dire. Hein, et donc, je suis capable de voter pour quelqu'un comme Juppé. Mais là, je sens que bon, je suis un peu mitigé, hein, parce qu'il y a des points sur lesquels bon, ils se rejoignent tous les deux. Et il y a d'autres points où, voilà, ils sont pas d'accord, par exemple, sur la politique internationale. Moi, je trouve que Fillon marque des points. C'est très important ce qu'il disait sur les relations avec la Russie.
Et donc, ça veut dire que François Fillon a raison de dire si je suis élu président de la République, je me rapproche, enfin, la France devra se rapprocher de Vladimir Poutine et de la Russie.
Oui, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas ignorer la Russie dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ça va nous pousser à cette bipolarisation qu'on a vécue pendant des années. Donc, on doit tenir en considération aussi la voix de la Russie et la voix des États-Unis. C'est comme ça qu'on peut régler les problèmes dans ce monde. Mais on ne peut pas être d'un côté et pas de l'autre. Et donc là, sur ce sujet, là, j'étais pas d'accord du tout avec Juppé. On ne peut pas aller comme ça affronter la Russie. C'est pas possible. Donc, il faut négocier, il faut discuter. Et donc, par contre, sur l'identité, j'étais d'accord avec Juppé. J'ai l'impression que Juppé était plus jeune que François Fillon sur l'identité. Donc, en tant qu'électeur de gauche, moi, je suis toujours mitigé. Donc, je ne sais pas encore pour qui voter.
Ah, parce que vous allez voter. Vous allez voter en tant qu'électeur de gauche. Vous avez voté dimanche dernier ou pas?
Dimanche dernier, non, parce que j'avais cours, donc j'ai pas pu aller.
D'accord, mais
dimanche-là, je compte, parce que pour moi, là, les électeurs de gauche, surtout social démocrate, on peut choisir notre candidat, puisque là, on n'a rien pour le moment à gauche.
Mmh. Oui. Enfin, certains sont déjà candidats à la primaire, hein, la primaire socialiste. On poursuivra le débat, si vous le voulez, lundi. Lundi, évidemment, nous connaîtrons le candidat de la droite française pour la présidentielle de 2017, François Fillon ou Alain Juppé. On vous donnera la parole. Vous pourrez évidemment dresser un bilan de cette primaire française de la droite, marquée notamment par l'élimination de Nicolas Sarkozy. On aura l'occasion d'en reparler. C'est la Libre Antenne. Il est 9h50 à Paris. 33 9 693 693 70. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Rouane Gomez, c'est Mamadou Djibert du Tchad.
Très bien, vous nous appelez de N'Djamena, où le climat social est explosif. Cette semaine a été marquée par la journée ville morte. C'était mardi, une opération lancée par l'opposition pour faire pression sur le gouvernement, obtenir le versement des arriérés de salaire, obtenir la fin des mesures d'austérité, une meilleure gestion du pays, c'est ce que réclame l'opposition et une partie de la société civile. Et vous-même, vous soutenez ou pas cette mobilisation de l'opposition?
Je soutiens totalement et indéfectiblement le mouvement de la société civile, des partis politiques et de toute la population. Évidemment, que dire qu'il a été dit, M. Gomez? Aujourd'hui, mon pays est dans une situation telle que moi, j'ai peur. Nous avons atteint un niveau gravissime de détérioration du tissu social. Il y a un clivage social qui s'est installé. Le gouvernement a pris des mesures antisociales, antisociétales, impopulaire, de sorte qu'aujourd'hui, le gouvernement est atteint d'une nullité qui ne lui permet pas de pouvoir ne pas dialoguer.
Oui. Alors, et parmi ces mesures, il y en a 16, hein, 16 mesures d'austérité. Ça va de la suppression des bourses pour les étudiants à la réduction des primes pour les agents de la fonction publique. Alors, effectivement, ce sont des mesures impopulaires, mais en même temps, le gouvernement et même le président de la République dit, à cause de la chute des cours du pétrole, il y a moins d'argent dans les caisses de l'État. Donc, pour renflouer les caisses de l'État, il faut adopter des mesures d'austérité.
La baisse du prix du pétrole n'est pas vraiment la cause de cette situation-là. Nous estimons qu'il y a une mauvaise gouvernance qui s'est installée, institutionnalisée dans notre pays. Le pillage, le vol dans notre pays, ce sont ces choses-là qui ont fait aujourd'hui qu'il n'y a aucune morale dans notre pays. Et en cela, aujourd'hui, les hôpitaux sont fermés, les enfants depuis 3 mois n'ont pas été à l'école. Toutes les entreprises sont presque fermées et nous sommes dans une situation de banqueroute, dans une situation de cessation totale.
Ouais, c'est vrai que le pays fonctionne au ralenti hein, depuis 3 mois, des grèves dans l'administration, la rentrée scolaire prévue le 15 septembre n'a toujours pas eu lieu, les enfants vont pas à l'école, les hôpitaux sont également paralysés, d'où donc la mobilisation cette semaine de l'opposition et de la société civile. Merci Mamadou de nous avoir appelé, bonne journée, bon courage à N'Djamena. On va à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le coup de gueule d'Abou. Bonjour Abou.
Oui, bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous êtes scandalisé, vous, par le sort réservé à Serge Aurier, le défenseur du PSG, qui n'a pas obtenu son visa pour aller à Londres et pour jouer contre Arsenal mercredi en Ligue des Champions. C'est vrai que, comme beaucoup de supporters, vous n'avez pas compris la décision des autorités britanniques.
Oui, en effet, je suis scandalisé. Alors là, scandalisé par les autorités britanniques. Parce que en Côte d'Ivoire, nous, Serge Aurier, c'est un garçon qui a de grandes qualités humaines. Mais cette décision de la Grande-Bretagne montre aux yeux du monde que c'est un garçon brutal, violent, alors qu'il n'en est rien. Ben, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître l'homme, mais sur le plan du droit, le droit n'a pas été dit. Parce que c'est vrai qu'il a été, il a eu une première condamnation en France.
Mmh. Alors. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme pour des faits de violence sur un policier. On se souvient de cette altercation à la sortie d'une boîte de nuit. Il a été donc condamné. Dans la foulée, Serge Aurier a fait appel de cette décision, ce qui en France suspend la condamnation. Alors qu'en Grande-Bretagne, le droit est différent. En Grande-Bretagne, la procédure d'appel n'est pas automatiquement suspensive. C'est-à-dire que les Britanniques considèrent que Serge Aurier a été condamné.
Oui, il y a un principe fondamental en droit, mais je pense que tout droit positif peut garantir le droit à l'innocence, parce qu'un prévenu n'est définitivement coupable que lorsqu'une décision définitive vient à être prononcée. Et ce n'est pas le cas pour le jeune
Serge Aurier.
Mais c'est ce qui rend le problème beaucoup plus scandaleux. Mais Lionel Messi également était dans la même situation que Serge Aurier. Il a bel et bien joué contre Manchester City. Donc, je me dis que c'est deux poids deux mesures.
Alors, deux poids deux mesures, excusez-moi, vous parliez du droit tout à l'heure à bout. Lionel Messi, oui, il a été reconnu coupable de fraude fiscale, mais Contrairement à Serge Aurier, il a pu se rendre sur le territoire britannique pour disputer un match de football. Mais la différence entre Serge Aurier et Lionel Messi, c'est que Messi a la nationalité espagnole. Il a donc un passeport européen. Et Serge Aurier, qui est ivoirien, n'a pas la nationalité française. Et donc Serge Aurier, pour aller sur le territoire britannique, il a besoin d'un visa. Et c'est là toute la différence, en fait. Donc c'est pas vraiment un deux poids, deux mesures. Le droit, il est ainsi fait. On peut le contester, on peut être scandalisé. Mais voilà, le droit est écrit et il faut l'appliquer. Merci beaucoup Abou de nous avoir appelé. Bonne journée. On va terminer avec Tapa sur les élections municipales de dimanche dernier au Mali. Bonjour Tapa.
Bonjour Juan et bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors des élections plusieurs fois reportées ces deux dernières années à cause de la menace terroriste. Autant dire que le principal défi, c'était la sécurisation de cette élection. Certains craignaient des attaques terroristes le jour du vote. L'opposition, se souvient, avait même réclamé un nouveau report des élections. Et vous, vous dites qu'il fallait absolument, enfin, organiser les municipales.
Enfin, bien sûr, serait-on tenté de le dire, parce que comme vous l'avez si bien dit, ça fait moult reprises qu'on reporte ces élections-là. Je pense que le Malien commence à en avoir assez d'être pris en otage par quelques individus. 17 millions de population est prise en otage par une infime minorité. Ce n'est plus acceptable et il faut savoir que dans les autres localités, les maires dont les mandats ont expiré et qu'on reporte à moult reprises, il commence à avoir des contestations à droite à gauche. Je remarque tout de même quand même que l'opposition n'est pas si mécontente des résultats du municipal. Je pense que nous regrettons les attaques qu'il y a eu et on présente nos condoléances aux familles des militaires et civils.
Parce qu'il y a, il y a eu le jour du vote 5 militaires tués au nord du Mali alors que leur convoi transportait des urnes. Les urnes ont pu être sauvées mais 5 militaires ont été tués. Je rappelle que dans le nord du pays également le jour du scrutin, un candidat a été enlevé. À Nara, une personne a été tuée. Dans la région de Tombouctou, du matériel électoral a été enlevé et brûlé. Malgré tout cela, il fallait maintenir le scrutin, organiser ces élections. Et pourtant, on disait que pour organiser ces élections, il fallait certes que la situation sécuritaire se calme, mais il fallait attendre que tous les réfugiés reviennent au Mali. On a encore 135 000 personnes qui vivent au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. C'est-à-dire qu'on a exclu, finalement, toutes ces personnes du jeu électoral.
Non, on ne les a pas exclus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ces localités-là, il y a une anarchie qui règne, il n'y a aucune autorité. D'ailleurs, les localités où il n'y a pas pu avoir d'élection, c'est plutôt dû au fait du sabotage de la part du CMA que d'un problème de terrorisme en tant que tel. Donc, dans ces localités-là, pour pouvoir accueillir ces réfugiés-là, je pense qu'il est indispensable qu'il y ait des autorités locales incontestées et qui seront en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour leur retour.
Merci Tapa. Merci. Bonne journée en région parisienne. Je voudrais qu'on termine avec Serge. Il patiente depuis un bon moment au standard. Il faut lui donner un minimum la parole. Bonjour Serge.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous êtes à Libreville, au Gabon. Gabon où, trois mois, quasiment jour pour jour après le scrutin présidentiel, la crise politique perdure, puisque le candidat malheureux Jean Ping se présente encore et toujours comme le président élu. Et vous dites qu'il doit tourner la page, qu'il doit dialoguer avec le pouvoir désormais.
Oui, effectivement, la situation politique et sociale actuelle impose vraiment que les gens doivent se parler. L'élection s'est passée comme elle s'est passée, et je pourrais même ajouter que comme tout le monde savait qu'elle allait se passer, en tout cas il est de notoriété publique depuis 90 que les élections présidentielles se sont toujours passées sur un climat de suspicion, le gagnant n'a pas été élu. Bon, il faut tourner la page et pour essayer de voir comment améliorer les choses pour que dans les élections à venir, il y ait plus de transparence, que ce soit les résultats qui seront sortis des urnes qui seront effectivement proclamés.
Oui, donc Jean Ping doit accepter la main tendue du président réélu Ali Bongo d'un dialogue national. C'est un sujet récurrent standard. Il revient toutes les semaines. On aura évidemment l'occasion d'en reparler ensemble dans les prochains jours. Qui sera le candidat de la droite française en 2017? Soirée spéciale dimanche soir sur RFI et lundi matin. Et vous pourrez évidemment réagir, commenter les résultats, dresser un bilan de cette campagne. François